Je reçois notre invité en studio, je l'en remercie, Gabriel Duverneuil, bonjour.
Bonjour.
Président du Club Histoire, Mémoire et Patrimoine de la Tour Blanche, à l'occasion de la sortie, ça y est, c'est fait depuis c'est le fait. Temps qu'on en a parlé sur l'antenne, de ce fameux maquis Éric de Celles à la poche de Royan, avec différentes présentations, à la fois à la Tour Blanche le 6 mai, de 9h à 12h, à la Tour Noire, voilà, il faut le préciser, et ensuite le 9 mai, à la salle des fêtes de Celles, ce sera à 16h, avec la présence de Patrick Ranoux et Jacques Ranoux, ils seront là tous les deux, pour présenter leurs ouvrages respectifs, et notamment l'Atlas de la Seconde Guerre mondiale en Dordogne. Mais revenons au maquis Éric. Donc ça y est, après de longs mois de recherche, d'écriture, de documents, tout est relié, tout est donc prêt à sortir maintenant.
Oui, et c'est un travail de longue haleine. Je l'avais commencé en 2010-2015, entre 2010 et 2015, mais je m'étais simplement concentré sur la région de la Tour Blanche parce que je voulais sortir une brochure sur les résistants de la Tour Blanche à l'occasion du 70e anniversaire. Et donc j'avais réalisé un certain nombre d'interviews. Le temps a passé et après j'ai voulu reprendre ce travail-là avec Pierre Cadroas qui avait écrit déjà quelques pages sur Pierre Pirabeau, celui qui a créé le maquis Éric, et je voulais travailler avec lui, mais malheureusement il était déjà très malade quand je lui ai proposé et il a refusé et il est décédé peu après. Donc j'ai repris puis dire le métier. Je suis revenu sur l'ouvrage, et là, c'est un concours de circonstances qui ont fait que je me suis vraiment décidé à démarrer sur ce projet, du fait de la rencontre de Francis Télémaque, le fils de Lucien Télémaque, qui était un des lieutenants du maquis de Pierre Pirabeau, qui avait conservé les documents de l'amicale. Et là, je me trouvais en face d'un nombre assez considérable, que je n'imaginais pas, de 300 et quelques noms. Et donc là, ça m'a décidé à reprendre ce travail-là. Et c'était un travail qui prenait une autre dimension, je ne pouvais pas le faire tout seul. Et heureusement, Jean-Pierre Chaminade de Celles a été conquis par le projet. Et nous avons fait ce travail ensemble de recherche des documents dans les familles. J'avais lancé aussi l'année dernière un appel à témoignages et à documents qui a donné de beaux résultats. Des dizaines de documents me sont parvenus sur les personnes qui avaient... Ce sont les fils, les petits-fils... ou les filles et les petites filles qui ont gardé ces documents et me les ont transmis. Et j'ai donc pu, avec Jean-Pierre Chaminade, arriver au résultat actuel de 405 noms de maquisards identifiés dans ce groupe Éric au fur et à mesure de son évolution. Il est bien évident qu'il n'y avait pas 405 maquisards le 6 juin 1944 à Celles. Mais... le groupe s'est étoffé petit à petit et donc on arrive à ce résultat de 405 noms. Et certainement, le groupe, enfin, nous avons un certain nombre de recherches encore à faire parce que nous n'avons pas la totalité du groupe, que j'estime aux alentours de 500 personnes.
Et il manque une centaine alors de
noms. Il manque une centaine de personnes pour diverses raisons, mais bon, c'est...
Pour quelles raisons jusqu'à présent rien n'avait été fait autour de ce maquis Éric d'une telle importance en tout cas?
Je pense que c'est l'ampleur de la tâche qui rebute un certain nombre de personnes. Mais moi, je suis allé au bout. Je suis allé au bout et j'en suis très content parce que c'était ma manière à moi. Et à Jean-Pierre Chaminade et tous ceux qui ont participé, à Francis Télémaque, de rendre hommage à ceux dont on n'a pas parlé, Évidemment, on connaît Pirabeau, le chef du maquis, on connaît quelques-uns de ses lieutenants, mais
la plupart des gens
qui ont participé ne sont jamais cités. Or là, avec cette idée de dictionnaire biographique du maquis Éric, nous allons chercher tout ce qu'on peut trouver sur un tel ou un tel, dans la mesure où on sait qu'il a participé à ce maquis.
Quelles sont les informations que vous avez pu récupérer sur ces jeunes hommes, essentiellement, hein ?
Oui, jeunes hommes, quelques femmes, mais jeunes hommes. Et ce qu'on peut récupérer, ce sont d'abord leur présence, quelquefois sans le prénom, sur ces fameuses listes de Francis Télémaque, de l'amicale Éric. Et à partir de là, de ces noms, je les ai confrontés avec un autre document extrêmement important pour moi, qui m'a été indiqué par un historien qui s'appelle Stephen Weiss et qui est spécialiste, entre guillemets, de la poche de Royan, de tout ce qui s'est passé autour de la poche de Royan, qui m'avait indiqué qu'il y avait aux archives nationales de l'armée, à Vincennes, un document avec des noms, des prénoms et des fonctions, ce qu'on appelle un ordre de bataille. Par exemple, Lucien Télémaque, sergent, chef de la batterie Intel, voilà. Donc c'était un document extraordinaire. Et donc nous avons confronté cette liste des anciens d'Éric avec, dans un premier temps, celle de ce qu'on appelle le régiment Parizeau, qui a été créé en 1er janvier 1945. Et donc dans ce régiment Parizeau, dans trois compagnies, les gens d'Éric étaient dans trois compagnies de ce régiment Parizeau. Donc voilà, ça a été une première étape. L'autre étape a été de consulter à Vincennes des dossiers individuels quand les personnes... Après la guerre, faut vous dire qu'après la guerre, les anciens maquisards ont eu la possibilité de faire reconnaître leur service. Et donc on déposait des dossiers qu'on appelle dossiers d'homologation de leur service dans la résistance. Et donc forcément, ce dossier contient énormément de renseignements. Ce qu'ils ont fait, avec qui ils l'ont fait, dans quelle unité ils étaient, etc. etc. Donc avec Jean-Pierre Chaminade, nous avons entrepris d'aller chercher ces dossiers. Alors c'est vraiment une petite minorité quand même qui l'a fait, cette démarche, puisque j'ai 405 noms et j'estime à 70 dossiers seulement de personnes qui ont demandé l'homologation. C'est vous dire que certains ont tourné très vite la page après la guerre.
C'était pas leur préoccupation.
Ils avaient fait leur devoir.
Ce qu'ils estimaient être leur devoir.
Et alors la troisième étape extrêmement intéressante pour moi, ça a été la découverte chez M. Gérard Seigne au Chat-d'œil. Alors il avait un carton complet de documents. Et ce Pierre Gérard Seigne a été d'abord sergent, puis il a été lieutenant dans les groupes formés pour aller sur l'Atlantique. Et comme il était très consciencieux et très sérieux, il établissait des listes de noms. Alors ça a été la cerise sur le gâteau, ça a été formidable, parce que ça permettait de boucler et de combler un certain nombre de vides dans l'histoire de ce groupe, savoir si un tel avait été dans telle unité régulière ou pas. Et donc ces documents-là nous ont permis en quelque sorte de boucler la boucle pour certaines personnes du groupe.
Et tous sont revenus après, donc à la fin de ce conflit mondial. Donc.
Oui.
Parce qu'il y a eu malheureusement des morts.
Il y a eu des morts parce que la poursuite des Allemands, d'abord il y a toute la phase d'insurrection à partir du 6 juin. La phase précédente, ce sont des attentats, des sabotages, contre les voies ferrées, faire sauter des ponts, etc., qu'elle participait le groupe Éric. Et après la guerre, après ça a été la bataille de Saint-Astier, dans laquelle le groupe Éric a eu une part importante. Et ensuite, ça a été la poursuite des Allemands vers la Charente-Maritime, vers Royan, La Rochelle, etc., la pointe du l'embouchure de la Gironde. Et donc il y a eu des batailles, entre autres à Mortagne sur Gironde, il y a eu des morts du groupe. Et par la suite, bon, la libération de Périgueux était faite depuis le 20 août, après le 20 août. Ensuite, ils sont partis à Angoulême. Ensuite, ils ont suivi sur Sainte et ensuite sur la côte avec Mortagne-sur-Gironde en remontant sur Royan. Mmh. Et là, ils ont procédé à l'encerclement avec d'autres maquis, évidemment. Il n'était que 500. Voilà, il y a eu jusqu'à 11 000 maquisards pour encercler les Allemands à Royan. Pardon. Mmh.
Qui étaient au départ ces jeunes, parce qu'ils n'avaient pas de formation militaire ?
Oui, c'est-à-dire ces jeunes, ils n'avaient pas de formation militaire, mais ils en ont eu très rapidement parce qu'ils étaient encadrés par des anciens. Il y a la génération précédente, ceux qui ont rejoint le maquis de la génération précédente, ont formé ces jeunes. Ils avaient une expérience militaire. Il y avait une formation dès qu'ils arrivaient au maquis,
oui.
Qui dépendait de la quantité d'armes qu'ils avaient. Mmh. Et donc, qu'avait le maquis. Donc ces jeunes étaient en très grande majorité des paysans du secteur. Ça a été pour moi une découverte, parce qu'on le savait, mais là, on peut avancer des chiffres. On peut dire que sur 500 maquisards, sur 405 noms, il y en a 300 qui sont des paysans. Mmh. Voilà, c'est à peu près la proportion. Et donc, ces jeunes paysans sont partis. Ça a été échelonné entre le 6 juin... et la fin août. Certains sont arrivés juste après les moissons. Certains sont partis en groupe, par exemple du côté de Couture. Il y a une photo malheureusement très mauvaise où on voit ce groupe de jeunes paysans avec leurs musettes sur le dos qui vont rejoindre un lieu où ils vont être contactés par le maquis. Et on voit, ce sont tous des paysans.
Qu'est-ce qui les incitait à partir? Parce qu'il n'y avait pas d'obligation.
Ah ben, il y avait l'obligation du service du travail obligatoire. Oui. Ah, ça a été essentiel. Dans la mesure où on envoyait ces jeunes en Allemagne et qu'ils ne le voulaient pas, ils ne voulaient pas, ça a développé aussi un esprit patriotique. Ces jeunes-là sont partis en patriote, pas forcément avec une idéologie de... Certains, oui, mais peu, finalement. La plupart, c'était parce qu'ils voulaient libérer la France et qu'ils ne voulaient pas partir travailler en Allemagne pour les Allemands. Voilà, c'était la motivation. Et donc, au départ, beaucoup de ces réfractaires au STO se sont cachés dans des fermes isolées ou autres, et contacté par le maquis, où c'est le maquis lui-même, la direction du maquis, qui les a envoyés dans une ferme isolée à droite ou à gauche, autour de la région de Ribérac, dans la Doule, etc., en attendant d'avoir des armes pour pouvoir les engager sur le terrain de combat.
Comment connaissait-il l'existence de ce maquis? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les SMS ni les réseaux sociaux.
Oui, mais c'était connu de tout
c'est
le monde.
Ouais,
c'était connu de tout le monde.
Le bouche à oreille.
Le bouche à oreille. Et il y a beaucoup de récits où on voit ces jeunes chercher le contact. Alors, on sait de bouche à oreille qu'un tel est favorable à la résistance. Est-ce que par hasard, il pourrait donner un endroit où, et on va le voir, discute avec lui. Par exemple, c'est un souvenir familial. Mon grand-père, qui à ce moment-là était maire adjoint, il n'était pas maire adjoint, il avait été déchu de sa fonction de maire par Vichy, mais il était connu comme favorable à la résistance et contacté par un jeune voisin en disant « Voilà, je voudrais rejoindre le maquis ». Et mon grand-père lui a répondu « Attends un peu, parce qu'ils n'ont pas d'armes, et quand ils auront des armes, je te préviendrai. » Donc vous voyez, c'est ce genre de contact. À Selle, le restaurateur de Selle, Monsieur Jardin, a été le contact principal pour rejoindre le maquis.
Est-ce que pour écrire cet ouvrage, vous avez eu des regrets par manque d'informations que vous auriez aimé trouver? Alors bien sûr, il y a encore cette centaine de noms qui vous manquent.
Oui.
Ça, je suppose que c'est un regret, mais il y a toujours la quête de retrouver ces noms. Mais sinon, globalement, est-ce qu'il vous a manqué une information à un moment donné qui aurait peut-être changé les choses?
Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que d'abord, Pierre Cadroas avait fait déjà un gros travail sur Pierre Pirabeau. Moi, je l'ai complété par d'autres documents que j'ai été chercher aux archives de la Gironde, parce qu'il était originaire de Targon en Gironde. Et donc, j'ai été chercher des documents là-bas qu'il n'avait pas. Donc, ça a été un plus en ce qui concerne la personnalité de Pierre Pirabeau. Des procès, par exemple, qui lui ont été faits après la guerre. Voilà. Et donc, j'ai un peu complété ça. Mais moi, je pense que mon travail, enfin notre travail, je dis bien, avec Jean-Pierre Chaminade, Francis Télémaque et Raymond Nuvet. Ah oui, ça, c'est aussi une chance. Voilà, une chance. Un jour, je voyais beaucoup de monde de Montguyon, qui est en Charente-Maritime. Je vois une vingtaine de noms originaires de Montguyon. Je me dis, mais que se passe-t-il? Pourquoi ces jeunes qui sont à 60 km de Selle ont rejoint le maquis Éric? Je téléphone à la mairie et je dis, est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner? Et je tombe, on me dit, oui, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ça. C'est Raymond Nuvet. Je le contacte et il m'a mis en relation. Lui-même a été en relation avec la majorité de ces jeunes de Montguyon qui ont rejoint le maquis à Saint-Olé. À ce moment-là, c'était à Saint-Olé. Voilà, donc c'est des coups de chance comme ça.
Il en faut.
Il en faut. Et des regrets. Mon regret, c'est de ne pas avoir pu pousser plus loin l'analyse de tous ces résultats. Je m'explique. J'ai 405 noms maintenant. Peut-être que dans l'année à venir, j'en aurai d'autres. J'arriverai peut-être à 450. Et donc c'est une base très confortable pour établir des statistiques et pour analyser au plus profond, par exemple, les motivations, les métiers, le moment où ils sont entrés dans le maquis. Pourquoi, etc., etc. Et donc ça, j'aurais aimé le développer, mais je voulais que ce livre sorte pour le 80e anniversaire. En fait, c'est pour le 81e.
Ça va. Voilà. Très bien. Alors justement, on vous présenterait cet ouvrage, Le Maquis Éric, parce que ça y est, donc il sort, hein. Le 6 mai, donc, à la Tour Blanche, mais à la Tour Noire, qui est donc ce lieu du bourg, le 6 mai de 9h à 12h, et puis à la Selle des Fêtes, le 9 mai à 16h, avec Patrick et Jacques Ranoux, qui, eux, présenteront aussi leurs ouvrages, et notamment cet atlas de la Seconde Guerre mondiale en Dordogne, avec Bernard Reveriego. C'est un livre, sinon, ce maquis Éric, qu'on pourra se procurer au-delà de ces rendez-vous en librairie.
Bien sûr, je vais le mettre dans les librairies du secteur, à Ribérac, à Périgueux, etc. Une petite rectification, l'Atlas, c'est Patrick Ranoux et Bernard Reveriego. Jacques Ranoux vient au titre de ses fonctions départementales sur les questions de la mémoire et de la résistance.
Parce qu'il y avait aussi un autre ouvrage sur ses parents, lui, qui avait été fait.
Oui,
voilà.
Oui.
Merci beaucoup. Ce sera peut-être l'occasion aussi d'avoir des témoignages à l'occasion de ces rencontres.
Lorsque j'ai fait la conférence du 6 décembre de l'année dernière à Celle, à la suite de cette conférence, et donc le livre a été en voie d'être terminé, mais pas encore, j'ai eu d'autres documents qui sont arrivés, très intéressants, que j'ai utilisés pour les biographies. Donc peut-être que le 9 mai,
ouais.
Voilà, il y aura quelques témoignages supplémentaires.
Est-ce que vous prévoyez d'autres rencontres ou dédicaces, hormis donc le 6 mai et le 9 mai ?
Oui, mais je prévois, j'ai pas encore pris contact avec des librairies, à part l'Arbre à Palabre.
À Ribérac,
mais je vais le faire. Bon. Donc voilà, je l'indiquerai.
On l'annoncera bien sûr, avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Gabriel Duverneuil, le maquis Éric de Celle à la poche de Royan, donc dans toutes les bonnes librairies, et donc ces conférences qui sont annoncées dans les prochains jours. Merci beaucoup.
Merci. À Liberté FM.